Donc effectivement, le titre, alors je ne sais pas si c'est le titre en bonne et due forme, de la saison culturelle du passage Sainte-Croix, c'est création avec une graphie un peu particulière. Création, C majuscule, entre parenthèses, C minuscule, création. Il faut se mettre d'accord quand même sur ce qu'on entend par création, avant de commencer à en parler. Et je voudrais pour cela opérer deux clarifications avant d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? C'est pas trop brouillé? Bon. Philippe, ça va? Tu m'entends bien? D'accord. Merci. Merci, Clotilde. Deux clarifications. Donc, la première, elle est lexicale. En français, les mots en « sion » peuvent désigner deux choses. Soit une action, un processus, soit le résultat de cette action ou de ce processus. Hein. C'est comme une construction. Ça peut désigner le bâtiment en train d'être édifié, la construction du bâtiment, ou bien ça peut désigner le bâtiment une fois édifié, une belle construction. Hein. Voilà. Et donc, il s'agit de se mettre d'accord sur la façon dont on va entendre le mot « création ». Nous sommes dans le mois, peut-être vous le savez, que les églises chrétiennes ont voulu consacrer à la création. Hein, du 1er septembre au 4 octobre, en référence en particulier à François d'Assise, qu'on fête dans l'Église catholique le 4 octobre, et puis aussi en prenant appui sur l'encyclique du pape Laudato Si. Hein. Il s'agit, avec ce mois consacré à la création, d'engager les chrétiens, et plus largement l'humanité dans son ensemble, dans le respect et la sauvegarde de la création. Alors il est bien sûr ici question de la création entendue comme le résultat d'un processus, hein, c'est-à-dire la nature, le monde, ou encore, pour reprendre un mot du pape François, notre maison commune. Hein. En tant que cette réalité est présumée faire l'objet d'une intention créatrice. Alors dans mon propos ce soir, ce n'est pas à cette acception du mot « création » que je m'attacherai. Et malgré toute l'estime que je porte à l'encyclique du pape, je n'y ferai pas allusion. J'entendrai exclusivement ce mot de création comme une action ou un processus. C'est clair ? Première clarification. La deuxième clarification n'en sera pas totalement une. Quand on consulte l'index du notionnaire de l'Encyclopédia Universalis, je l'ai sous la main, donc voilà, c'est pas une référence absolue, mais on trouve au mot création plusieurs entrées possibles. La première est théologique, la seconde mythologique, la troisième artistique, la quatrième littéraire, comme si elle n'avait pas sa place dans la création artistique, bon. Et la cinquième, financière, la création monétaire. Reste à privilégier l'une de ces entrées. Vous ne m'en voudrez pas si je laisse tomber la cinquième. Mon propos ne sera pas financier ce soir. Mais parmi les quatre premières entrées, peut-on en privilégier une ? Le titre de cette saison culturelle au passage Sainte-Croix entretient à dessein une ambiguïté. Est-ce qu'il faut mettre une majuscule au mot ? On entre alors spontanément dans le champ de la théologie, ou de la spiritualité, ou encore de la mythologie, en envisageant la création comme l'œuvre d'un créateur, auquel on pourra aussi mettre une majuscule. Faut-il se contenter d'une minuscule ? On pourrait alors envisager la création artistique, dans laquelle je prendrais la liberté de ranger également la création littéraire. Cela dit, on n'entend pas tout à fait de la même façon ce qu'est la création quand on y met une majuscule ou une minuscule. Dans le premier cas, en la considérant comme une entreprise divine, on l'entend en un sens absolu. Elle ne peut être que singulière, la création, et sans partage. Dans la Bible, Dieu seul est sujet du verbe bara, créer. Dans le second cas, avec une minuscule, on l'entend dans un sens relatif et on peut lui accorder le pluriel. Il y a des créations. Alors peut-on à l'intérieur d'un même discours faire droit à l'une et l'autre création ? Peut-être. Peut-être en recourant à l'analogie. Ce sera mon parti pris ce soir. La création, avec un C majuscule, que j'essaierai de comprendre dans une première partie, avec un regard théologique, ou mythologique, si vous voulez, ça m'importe assez peu, au moins dans un premier temps. Cette création, considérée avec un regard théologique, elle pourra nous aider à discerner ce qu'il y a de création, avec un C minuscule, dans l'œuvre artistique. Et donc ce sera ma deuxième partie. Et je réserverai à une troisième partie la tentative d'embrasser dans un même regard la création entendue au sens artistique et la création en son sens théologique. Voilà, vous avez mes trois parties. Donc je commence avec la création entendue avec un regard théologique et donc la création auquel je mets un C majuscule. Les philosophes médiévaux, au premier rang desquels Thomas d'Aquin, nous ont appris à penser la création en la distinguant du commencement. Pour saint Thomas, en effet, il est non seulement impossible de démontrer que le monde a un commencement, mais il est possible d'envisager que le monde créé soit sans commencement. Ce n'est que dans la foi que nous tenons que la création a eu lieu, je cite le concile de Latran IV en 1215, a eu lieu de rien dès le commencement du temps. En latin, de nihilo ab initio temporis. Le concile de Latran, c'est 1215. Cette distinction entre création et commencement est précieuse, notamment parce qu'elle permet aux croyants de ne pas demander à la science de lui fournir la certitude d'un commencement de l'univers pour conforter sa foi en Dieu créateur. Elle nous permet surtout cette distinction de ne pas penser la création comme une fabrication, mais de l'envisager comme une dépendance ontologique. Dieu ne crée pas à la façon dont un artisan fabrique un objet. Il crée en instaurant une relation avec le réel, relation qui tient le réel dans l'être. Rien n'interdit donc de penser que cette création du monde ou que cette relation vivifiante de Dieu au monde soit de toujours. Les arguments ne manquent pas pour ce faire, en particulier les arguments qui manifestent la thèse contraire comme difficile à penser. En considérant Dieu lui-même, j'espère que je ne vais pas vous noyer dans quelques considérations philosophiques, hein, sinon vous me direz, explique un peu parce que... En considérant Dieu lui-même, on peut se demander s'il est essentiellement créateur ou s'il ne l'est qu'accidentellement. C'est-à-dire, est-ce que Dieu aurait pu ne pas être créateur ? Dans une perspective aristotélicienne, il est difficile de penser Dieu comme créateur en puissance, alors que Dieu est acte pur, c'est-à-dire que tout ce que Dieu peut être, il l'est, effectivement. Si Dieu est créateur, alors il crée. En considérant la création elle-même, on a du mal à concevoir un temps qui commence, comme s'il y avait un avant du temps. Mais vous voyez bien que parler d'un avant du temps, c'est un peu incohérent. Est-ce qu'il y a eu rien avant le temps ? Est-ce que quelque chose peut venir de rien ? Décidément, une création ex nihilo est difficile à penser. Pourtant, il me semble essentiel de référer la création au nihil, au néant, à condition de bien s'entendre sous ce qu'on met sous ce mot. Qu'est-ce que rien ? Impossible de donner un contenu à ce mot, sous peine de le voir disparaître. Si je peux dire ce qu'est rien, alors ça n'est pas rien. Rien n'est pas quelque chose. N'est-ce pas d'ailleurs dans cette direction que nous conduit la première page de la Bible, le premier récit de la création ? Il n'y est pas formellement question de néant, mais plutôt de chaos, de, c'est le mot hébreu, tohu-bohu, de bazar, si vous voulez. Le bazar, ça n'est pas rien, mais ça n'est pas quelque chose. Emmanuel Lévinas a pu nous conduire à comprendre cet état initial du réel en parlant de l'ilia, pour désigner, je ne vais pas entrer dans le détail, hein, mais c'est pour désigner un état de l'être sans étant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'ailleurs, le mot « ilia » évite le verbe « être ». Alors, pourquoi vouloir à tout prix référer la création au néant devant la difficulté que nous avons à concevoir intellectuellement ce dernier ? Eh bien, parce qu'avec le néant en toile de fond, la création apparaît moins comme un état de fait que comme une victoire. Victoire sur le bazar, victoire sur l'engluement dans l'ilia. Et c'est bien ainsi qu'est décrite l'action créatrice de Dieu dans ce premier chapitre de la Genèse. Dieu met de l'ordre là où il fait radicalement défaut. Il sépare la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut, des eaux d'en bas, le ciel et la terre, jusqu'à l'homme et la femme. Victoire ponctuée par ce refrain, et Dieu vit que cela était bon, et même très bon, après la création de l'humain, homme et femme. Voilà pourquoi il m'importe d'envisager la création sur cette toile de fond du néant. Trop dissocier la création du commencement risquerait de faire paraître la création comme normale, puisque de toujours. Sur la toile de fond du néant, elle apparaît comme victoire ou encore comme un geste de salut. Par son action créatrice, Dieu est révélé comme celui qui sauve de l'engloutissement dans le néant. Revenons sur le refrain de ce récit. Dieu vit que cela était bon. Il vit. Dieu est le premier spectateur de son œuvre créatrice. C'est le premier résultat de la création. Il y a quelque chose à voir, et même à contempler, à admirer. Quelque chose à comprendre aussi, quelque chose à comprendre parce que les choses ont reçu un nom. L'œuvre créée est donc placée par le Créateur à distance de lui-même. Une distance qui précisément permet ce regard et cette intelligence. Le Créateur se dit dans la création, mais il n'y est pas tout entier contenu. La création n'est pas l'émanation de son être, mais son action libre et même délibérée. Faisons l'homme à notre image, dit Dieu. La création n'est pas plus le fruit du hasard que de la nécessité. Un autre trait de la création peut encore être souligné relativement à cette distance maintenue entre le Créateur et sa créature. Distance que l'on reconnaît aussi entre les créatures elles-mêmes, qui sont créées en étant distinguées les unes des autres. Dieu n'est pas seulement le séparé du monde, il est le séparateur. Par cette séparation, il instaure la possibilité de la relation avec lui, de même qu'il installe les créatures dans la possibilité de la relation entre elles. C'est parce qu'on est séparés, à distance les uns des autres, qu'on peut engager une relation. C'est par la parole que cette distance pourra être franchie. Comme Dieu parle à ses créatures, animales et humaines, après avoir prononcé la parole qui les suscite. La parole, étonnamment ou paradoxalement, instaure la distance et la franchit. Autrement dit, Dieu installe ses créatures en situation d'alliance. Alliance avec lui, alliance entre elles. La séparation est tellement constitutive de l'action créatrice de Dieu qu'on peut reconnaître l'alliance comme la finalité de cette action créatrice, qu'on peut dire la création comme étant pour l'alliance ou pour l'amour, si on emboîte le pas à Maurice Bellet, que j'ai lu et médité, relu plus exactement, Maurice Bellet dans Incipit. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit ouvrage, là. Enfin, c'est très bref, hein. Ça ne fait pas 100 pages, mais c'est du Maurice Bellet, donc ça donne à penser. Je disais donc une création pour l'alliance ou pour l'amour, et plus encore peut-être par l'amour, si telle est la raison qui conduit Dieu à sortir chacun du néant. Alors par la suite, la Bible nous apprendra que l'œuvre créatrice de Dieu n'est pas à enfermer dans un passé immémorial, comme le laissent penser les mythes en général, et comme pourrait le laisser penser la première page de la Genèse. Je m'appuie sur saint Paul, et plus précisément sur l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 22, pour le dire, je cite saint Paul, « La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. » La création n'est pas achevée, elle est en cours. La victoire sur les douleurs n'est pas encore achevée. Le néant menace toujours. Que cesse cette action créatrice et tout retournera au néant, tout sera défait. Le chaos initial reprendra ses droits, si toutefois on peut reconnaître le chaos comme un sujet de droit. Décidément, la création est moins le résultat d'un processus que le processus lui-même, qui accompagne ce qui a un jour été jeté, projeté dans l'être. La création n'est pas tout entière contenue dans ce qui se donne à voir, à contempler. Elle se fait encore attendre et elle s'offre à discerner dans le présent cette action créatrice. Elle suscite à la fois l'action de grâce et l'espérance, et peut-être aussi la supplication devant le néant toujours menaçant. Voilà quelques éléments qu'un regard qu'on peut considérer comme théologique, quelques éléments seulement, hein, évidemment, on pourrait déployer bien plus une théologie de la création, mais je m'en tiens là, pour aborder maintenant la création avec un petit « c ». dans ma deuxième partie. Le regard théologique, biblique, spirituel qu'on vient de porter sur la création nous permet-il de dire ce qu'est une création entendue cette fois au sens artistique, disons. Je recueille brièvement les fruits de la première partie. La création, avec un C majuscule, est victoire sur le néant et œuvre de salut. Elle est délibérée et placée à distance de son auteur. Cette distance permet la relation et même l'alliance. Elle n'est jamais achevée. Tous ces acquis nous permettent peut-être de discerner ce qu'est une œuvre d'art et plus encore ce qu'est l'œuvre de l'artiste. Et donc je vais reprendre ces différents éléments dans le désordre, enfin en espérant ne pas être trop chaotique quand même. L'œuvre d'art n'est pas l'œuvre du hasard. Il est sûrement légitime de se demander devant elle ce que son auteur a voulu dire, en postulant qu'une intention, même inconsciente, présidait à son œuvre. Certains artistes pourront même aller jusqu'à dire que, loin d'être le fruit du hasard, leur œuvre est celle de la nécessité, une nécessité impérieuse qui les poussait à exprimer ce qui les habitait et qu'ils ne pouvaient pas taire. Pour autant, nous savons bien que le silence est toujours possible et que l'œuvre produite n'est pas nécessairement offerte au regard du public. Aucune nécessité ne suffit à rendre compte de la présence de cette œuvre devant nous. On peut donc se demander ce que l'artiste a voulu dire, mais il est sûrement plus légitime encore de se demander ce que dit son œuvre, indépendamment de l'intention de son auteur. Tant il est vrai qu'une création artistique échappe à son auteur. Est-ce que ce n'est d'ailleurs pas le propre de toute création, précisément parce qu'elle est création, d'instaurer une distance entre le créateur et son œuvre? Ce dernier, le créateur, se révèle dans son œuvre, mais il n'est pas tout entier contenu dans sa création. Cela est tellement vrai que l'artiste, le plus souvent, a besoin de revenir à son atelier pour poursuivre l'œuvre commencée, afin de dire mieux, de dire plus, de dire autrement ce qu'il est, ce qu'il porte en lui. Le créateur ne cesse pas d'être créateur parce qu'il a un jour créé. Son œuvre n'est jamais achevée. Toujours il lui faut être à l'œuvre. La création ne peut être que continue. En théologie, on dit continuer quelquefois. Précisément parce qu'elle n'a jamais encore tout dit de son auteur. Est-ce qu'on peut dire que cette distance entre le créateur et son œuvre a l'alliance pour finalité? Il revient sans doute à chaque artiste de le dire s'il le peut, mais il est notoire que l'œuvre d'art a une incidence sur la communion. Rarement elle laisse indifférent, suscitant des réactions affectives, d'adhésion enthousiaste, ou au contraire de rejet violent, suscitant une forme de communion autour d'elle ou contre elle. Elle prend bien pied sur cette terre d'alliance, où l'on en vient à dire « j'aime » ou « je n'aime pas ». Le créateur ne peut pas contraindre l'adhésion à son œuvre, mais il offre, peut-être à son insu, l'opportunité d'une communion. Et il faut bien reconnaître que la communion d'alliance que permettent certaines œuvres, même si elle est fugace, peut être particulièrement forte. Mais qu'en est-il du rapport du créateur et de son œuvre au néant ? Faut-il réserver le ex nihilo au créateur divin? Sans doute, en un sens absolu. Mais peut-être la création artistique ouvre-t-elle l'accès à un monde dont on ignorait jusque-là les contours et jusqu'à son existence même. Il est difficile à proprement parler de dire que la création artistique est création d'un monde, mais elle peut au moins être comprise comme création d'une fenêtre sur le monde. Elle donne à voir l'inaperçu du monde. Peut-être la contemplation d'une œuvre éveille-t-elle en moi une émotion inattendue et m'installe-t-elle dans une façon nouvelle d'être au monde. La création artistique peut susciter quelque chose de neuf en moi et me transformer. Elle me parle d'une façon inouïe. Et par cet acte de parole, elle me fait être devant elle autrement que je ne l'aurais été sans elle. Dans une certaine mesure, la création artistique se prolonge en création du sujet qui se tient devant elle, lui donnant d'être de façon nouvelle. Au bout du compte, on peut dire que la création artistique fait passer de l'invisible au visible, tant le monde de l'artiste que cet artiste lui-même et que cette part de moi-même qui serait demeurée à moi-même inconnue sans le travail de l'artiste. Mais cela ne fait pas encore de l'œuvre créatrice une création ex nihilo. Il faut aller jusqu'à mesurer combien l'artiste peut contribuer à la victoire sur le chaos. Et on peut penser ici à ces œuvres nées en contexte absolument chaotique. Guerre, camps de concentration, oppression de toutes sortes, où le néant affleure et engloutit. L'œuvre de l'artiste est alors sans équivoque possible une résistance au chaos et même une victoire sur ce chaos. C'est bien dans un camp de prisonniers de guerre que Lévinas a forgé son concept d'Ilia. Vous pourrez lire ça dans De l'existence à l'existant, une des premières œuvres de Lévinas. Alors que justement, Lévinas expérimentait la puissance des forces de destruction. Que dans un tel contexte se manifeste la puissance créatrice d'un homme. Et c'est alors un rayon de lumière qui apparaît, transperçant l'obscurité ambiante. C'est une terre ferme qui émerge au-dessus des eaux de mort. C'est un homme qui se tient debout là où on voulait faire croire qu'il n'y avait que des animaux. Oui, il y a bien une création artistique ex nihilo. Faut-il en venir à dire que l'œuvre artistique mérite d'autant mieux d'être reconnue comme création qu'elle émerge d'une situation chaotique en soi et autour de soi? Que sans souffrance personnellement exprimée, éprouvée, il ne saurait y avoir de création? Ce serait oublier que l'hypothèse d'un commencement ex nihilo n'est pas nécessaire à la reconnaissance d'une création et que rien n'interdit de l'envisager au milieu de la sérénité. Mais l'histoire de l'art offre assez d'exemples pour oser dire que la création artistique peut être ex nihilo. Entendu de la sorte, on peut se demander si la création artistique n'est pas le paradigme de la façon dont nous sommes tous appelés à être créateurs. Quelques questions graves méritent d'être entendues à ce sujet. Y a-t-il un membre un seul de toute la communauté humaine qui soit dispensé de prendre sa part dans l'instauration et dans l'entretien d'une communauté d'alliance entre les hommes. Et encore, n'est-il pas de la responsabilité de chacun d'offrir aux autres le regard qu'il porte sur le monde, comme le fait l'artiste, et permettre ainsi un échange intersubjectif qui fasse sortir chacun de l'enfermement sur lui-même en vue de l'alliance. N'avons-nous pas enfin la responsabilité, autant que nous le pouvons, d'opposer aux forces de destruction, de néantisation, ce rayon de lumière qui permet d'entrevoir, ou mieux, d'espérer un autre monde possible? Ces questions sont graves parce qu'elles confinent au salut. Un monde sans créateur ne serait-il pas voué au néant? Car il n'y a pas d'alternative devant la menace du néant. Ou bien on fait œuvre créatrice, ou bien on lui laisse le champ libre. En ce sens, donner à voir les fruits de la création artistique, encourager, valoriser, promouvoir la création artistique, comme le fait le passage Sainte-Croix, avec beaucoup d'autres, Dieu merci, est essentiel, pour ne pas dire vital. Mais il faut évidemment élargir notre propos au-delà de la seule création artistique. Et cela est préférable pour quelqu'un comme moi qui ne se reconnaît aucun talent artistique. Quand il s'agit de résister au chaos et d'offrir une alliance possible aux hommes, la lutte pour la justice sociale prend-elle aussi tout son sens ? Toute participation à la mise en ordre du monde et à la victoire sur le néant peut être reconnue comme créatrice. Quand le partage des richesses est désordonné, quand l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas acquise, quand des peuples souvent sont tenus sous la domination d'autres peuples, quand des migrants sont reconnus comme des problèmes avant de l'être comme des personnes, quand l'urgence écologique est tenue à distance. Bref, quand fait défaut la fraternité, le néant affleure. A contrario, on rencontre dans le champ de la justice sociale de grands artistes de l'humanité, dont l'œuvre est précisément la fraternité. J'insiste sur la qualification artistique de l'œuvre humanitaire. Celle-ci peut faire entrevoir un monde inconnu. Elle contribue à la résistance au chaos en mettant le monde dans le bon ordre. Elle suscite l'émerveillement et offre une chance à l'alliance. Dans son ouvrage déjà cité, Incipit, Maurice Bellet atteste que tout commence quand l'homme reconnaît en l'homme son prochain, et qu'alors s'opère la sortie du chaos, de la terreur et de la violence, la sortie de l'inhumain. Au fond, l'agapé, ou la charité, selon qu'on parle grec ou latin, ne serait-elle pas au fondement de toute œuvre créatrice ? En même temps que sa finalité. S'inscrire dans une dynamique créatrice, c'est faire œuvre d'humanité ou d'humanisme. C'est épanouir l'humain en soi et autour de soi. Être créateur n'est pas un luxe pour des personnes qui pourraient s'élever au-dessus des contingences de la vie dans le monde. C'est au contraire une urgence qui s'impose à tous. L'œuvre créatrice, c'est ce qui tient le monde dans l'être. Après avoir essayé de considérer la création avec un petit C à la lumière de ce que j'avais reconnu de la création avec un grand C, en espérant ne pas vous avoir perdu en cours de route, je voudrais dans cette dernière partie essayer de nouer les deux, la création avec un petit C, la création avec un grand C. Et je le fais sans perdre de vue que quand je parlerai désormais de création artistique, je ne la limiterai pas à ses aspects esthétiques, j'y tiens, mais que je ferai droit aussi à ce que j'évoquais sous le terme de justice sociale. Peut-on nouer les deux, la création avec un grand C, la création avec un petit C? C'est possible peut-être si nous acceptons de reconnaître la création artistique comme participation à la création divine. Et c'est la perspective que je voudrais explorer pour terminer. Le texte biblique de la Genèse peut nous mettre sur la voie. Au sixième jour, en créant l'homme, homme et femme, en créant le couple humain, Dieu lui donne la mission d'être fécond, c'est-à-dire de faire œuvre de vie, c'est-à-dire d'entrer dans sa dynamique créatrice. Peut-être même est-ce en cela que l'homme peut être reconnu comme à l'image de Dieu. Et nous pouvons maintenant le reconnaître. Toute œuvre créatrice, participant du même élan de lutte contre le néant, est une réponse fidèle à l'injonction divine de fécondité. Toute œuvre créatrice est le prolongement de l'œuvre du Créateur. Il est dit qu'au septième jour, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Une glose de ce texte ose dire que Dieu se repose désormais sur l'homme pour continuer son œuvre. La création artistique pourrait bien être une modalité de la création divine continuée. L'œuvre artistique peut être reconnue comme s'inscrivant dans la dynamique divine. Mais on peut dire aussi la même chose de la contemplation de cette œuvre. Dieu est créateur, mais pas seulement. Il est aussi le contemplateur du spectacle du monde qu'il fait sortir du néant. J'ai déjà évoqué ce refrain qui scande le récit de la création, et Dieu vit que cela était bon. Et c'est aussi notre refrain quand nous nous tenons devant une œuvre artistique. C'est bon. Pas seulement beau. La beauté ou le critère de la beauté serait un critère d'appréciation qui pourrait laisser le spectateur à distance de l'œuvre. Si elle est reconnue comme non seulement belle, mais bonne, au sens où elle fait du bien, alors je peux dire que la distance entre l'œuvre et le spectateur est franchie, parce que je suis touché. Toute création fait du bien. Quand elle illumine le regard et le cœur, quand elle suscite un élan de communion fraternelle, quand elle tient le chaos à distance. Et le fait qu'elle nous conduise à dire que cela est bon montre bien que cette œuvre s'inscrit dans l'élan du Créateur lui-même. « Il est un jour où la création est non seulement reconnue comme bonne par le Créateur, mais très bonne. C'est le sixième jour, après la création de l'homme, homme et femme. Comme on l'a déjà souligné, le couple humain est enjoint à la fécondité. Cela n'est pas son privilège. Au cinquième jour, les animaux le sont aussi. Mais là où les animaux, si je lis de près le récit biblique, là où les animaux sont invités à être féconds et à remplir la terre, l'être humain est invité à être fécond, à remplir la terre et à la dominer. Je m'arrête un instant sur ce dernier mot qui a pu faire l'objet de bien des contresens. Cette action dominatrice ne peut pas être entendue par Dieu comme possibilité de maltraiter le monde, d'instaurer le chaos sur terre, de défaire l'œuvre créatrice. Il s'agit au contraire, et c'est ainsi que je vous propose d'entendre ce mot, il s'agit au contraire de maintenir la terre en ordre, de faire que la mise en ordre opérée par Dieu ne retourne pas au chaos initial. L'homme n'a pas seulement une mission créatrice dans le prolongement de celle de Dieu, il a aussi une mission de protection de la création divine elle-même. C'est en cela que, précisément, la fonction de l'homme n'est pas seulement d'être producteur ou reproducteur, comme le sont les animaux, mais véritablement créateur. La responsabilité confiée à l'homme sur la création, c'est de résister au chaos. C'est cette responsabilité qui le distingue du reste de la création, qui le fait humain dans tous les sens du mot. On reconnaît aussi dans la création de l'humain, homme et femme, la création du foyer dans lequel peut éclore l'amour, l'agapé. C'est en ce sens qu'on peut convoquer ici le deuxième récit de la création. Je n'ai parlé que du premier pour l'instant, parce que c'est dans ce récit que l'homme prend enfin la parole. Et quand est-ce que l'homme prend la parole ? Quand la femme se tient devant lui. C'est précisément dans cette création de l'homme et de la femme qu'une parole peut s'échanger, qu'une alliance devient possible et que l'homme peut laisser, c'est le sens de cette première parole de l'être humain dans la Bible, que l'homme peut laisser libre cours à son émerveillement. C'est peut-être ce qui motive l'exclamation divine à la fin de son œuvre créatrice. C'était très bon. Car l'agapé, j'y reviens, est la source d'énergie qui permet d'être créateur à la suite du Créateur. La fécondité humaine que permet la rencontre sexuelle dans l'amour pourrait être le modèle de toute fécondité à laquelle chacun est appelé. Faut-il être artiste pour être créateur ? Non, il faut aimer. L'artiste divin est d'abord un amant, et c'est parce qu'il aime sa création que celle-ci, après avoir été extraite du chaos, est préservée d'un retour au néant. Il ne me reste plus qu'à faire le vœu que cette saison culturelle du passage Sainte-Croix nous donne à contempler ce qu'il y a d'amour dans toute création et que chacun puisse ici s'exprimer. Cela est très bon. Je vous remercie. C'est la Bible ne parle pas, justement, dans le premier chapitre de la Genèse, la Bible ne parle pas de rien. Ou plus exactement, je le fais moi avec Lévinas, elle identifie le rien au chaos. Le chaos, c'est une situation où rien n'émerge. Et donc, à proprement parler, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien au sens où il n'y a pas quelque chose. Non, mais je ne sais pas, c'est peut-être pas... vous avez le droit de contredire, hein ? Oui. Formellement, il faut attendre très. Enfin, on peut dater hein, si on essaie de. Si on fait confiance aux savants surtout, parce que moi, ce que je ne suis pas. Mais si on fait confiance aux savants, on peut dater le premier récit de la création de la fin du 6e siècle ou du début du 5e siècle, avant Jésus-Christ, évidemment. Il faut attendre le deuxième livre des Maccabées, c'est-à-dire le milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, pour que l'expression « ex nihilo » apparaisse. Hein ? Elle n'apparaît pas initialement. C'est ce qui permet justement de si on veut être fidèle à ce que dit le concile de Latran IV, et donc tenir que la création est faite ex nihilo, en lisant le premier chapitre de la Genèse, on n'a pas d'autre recours que d'identifier le néant à ce tohu-bohu dont Dieu tire quelque chose. J'ai pas voulu me lancer dans une lecture de Lévinas parce que si vous n'en êtes pas familier, il faudra faire de grands détours pour qu'une phrase soit compréhensible. Mais Lévinas évoque l'Ilia comme l'être sans étant et pourtant sans néant. Bon. Mais un état de l'être où rien n'est discernable. Rien n'est discernable, et donc tout est oppressant. Lévinas parle de l'horreur de l'Ilia. Bon. Et que précisément, on sort de l'horreur de l'Ilia par la parole. Hein, par la parole. Bon. Mais voilà, c'est... je ne peux pas m'empêcher de citer Lévinas, c'est pas pour faire pédant, mais c'est parce que c'est une des sources qui m'a vraiment aidé à penser quelque chose sur cette question du néant. Voilà.
Est-ce qu'il y a une réponse dans ce que vous avez dit à la présence du mal dans le monde ?
Ah oui. Oui, vous avez raison hein, de souligner ça. Pardon. Oui. Ah oui, oui, d'accord. Donc la question est de savoir si il est question du mal hein, quand on parle de du chaos ou du néant. Oui, c'est évident que le chaos est la figure du mal. Hein? Le chaos est la figure du mal, ou peut-être même c'est le mal. C'est le mal. Et précisément, c'est pour ça que j'évoquais la création ex nihilo comme un geste de salut, comme une victoire. Hein? Et quand saint Paul évoque la création qui est en train d'être extraite du chaos, la présence du mal nous dit que la création est en cours, qu'elle n'est pas achevée et qu'elle a besoin de bras. Alors il y a Thierry qui a une question qui pose... D'une tentation de... Oui. La reproduction du chaos n'est pas le chaos. Ça peut même être une tentative de le dominer. Je fais la différence, oui, je pense pas être le seul, hein, entre la qualité artistique de l'œuvre et ce qu'elle représente. J'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre ça à quelqu'un qui me parlait du cri de Munch et qui me refusait le droit de trouver ça beau. Bon, parce qu'elle identifiait le tableau avec ce qu'il représentait, ou l'œuvre de l'artiste avec ce qu'il avait représenté. Il me semble qu'il y a une façon de représenter le chaos. Guernica, comme une façon de le tenir à distance, en tout cas pour l'avenir, plus jamais ça. Donc il y a quelque chose d'une résistance au chaos qui s'exprime dans la reproduction du chaos, me semble-t-il, hein. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'art, loin de là, hein, loin de là. Donc vous pourrez très facilement me prendre en défaut, mais n'hésitez pas à le faire, hein, on peut débattre, hein, entre vous. Alors, je ne sais pas si on peut parler de nécessité du mal, mais on peut, voilà, et de fait, on peut accueillir comme une tâche nécessaire le fait de lutter contre, hein, le fait de lutter contre, sous peine d'être englouti. Encore une fois, il n'y a pas d'alternative, hein. Ou on résiste au chaos, ou il engloutit. Voilà. Et c'est en ça que j'essayais de dire que c'est une tâche qui incombe à tous, simplement parce qu'on est des êtres humains. Hein. Ah oui, youpi. J'ai laissé dans l'ombre, hein, bien des aspects d'une théologie de la création, hein, c'est évident. Hein. Ah, il y a Philippe qui a une question. Oui. Non, mais certains lecteurs de la Bible, et en particulier des 11 premiers chapitres de la Genèse, y compris parmi les croyants, reconnaissent à ces textes, ou peuvent les lire ces textes, en les considérant comme mythologiques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont dépourvus de sens théologique. Hein ? C'est pas ou bien la théologie, ou bien la mythologie. Mais certains peuvent avoir du mal à entrer dans une perspective théologique, et je pense que dans la première partie, quand on évoque la création comme l'œuvre d'un créateur, il importe assez peu qu'on adhère ou pas, qu'on considère ce propos comme vrai ou comme fabuleux. Tu vois ? Je crois que ça change pas grand-chose à ce qu'on peut dire de ce qu'est la création attribuée à un créateur. Dans ma troisième partie, c'est autre chose. Quand j'essaie d'inscrire la création artistique dans la perspective de la création divine, là, je me démarque d'une vision purement mythologique de la création pour lui reconnaître un sens théologique et spirituel. Hein ? Mais dans la première partie, je crois que ça ne faisait pas une grande différence qu'on adhère ou pas à l'existence d'un créateur, hein, qu'on croit ou non en l'existence d'un créateur, je pense que ça ne change pas beaucoup le propos que j'ai pu tenir.
Hein.
Oui. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas un discours de croyant que tu tiens là? Parce que d'autres peuvent lire la Genèse, en tout cas c'est en ce premier chapitre, comme mythologique. Oui, 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 absolument. Ah oui, oui, ça c'est tout à fait vrai, tout à fait vrai. Ah oui, non, mais le récit se démarque très nettement, ne serait-ce que le fait de considérer les étoiles comme des choses. Hein, le soleil, c'est pas Dieu. Hein, voilà. Les étoiles non plus, la mer non plus. Bon. Donc il y a une sorte de démythologisation, mais qui peut très bien prendre place à l'intérieur d'un autre récit mythologique. Tu vois, enfin, c'est moi, j'ai pas voulu. Enfin, il me semble que mon propos, en tout cas sa première partie, on peut s'accorder dessus indépendamment du fait d'être croyant ou non. Tu vois, hein, c'est un peu ce que j'ai voulu dire. Voilà, mais je te remercie d'apporter ces précisions là. Oui.
La deuxième chose que j'avais sur le direct, bien éventuellement, c'est ce dont il a dit à la question ici, à savoir le mal comme absence du bien. Le mal, c'est rien. Le mal,
oui.
C'est quelque chose qui existe, c'est l'absence de quelque chose qui devrait exister.
Oui.
C'est ce que d'autres appellent le IA, ce que d'autres appellent la violence fondamentale, c'est le rien.
Oui. C'est ça, oui, tu dis bien les choses, oui. J'aurais pu les dire comme ça, ça aurait été bien. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, mais tu le dis bien, oui. Alors, ça de fait, on ne peut pas, alors, dans la foi chrétienne, du coup, hein, le premier verset de l'évangile de Jean nous conduit à reconnaître le Christ à l'œuvre dans l'action créatrice de Dieu. Hein. En lui, tout fut créé. Voilà. au commencement était le Verbe, par lui tout fut créé. Donc effectivement, le salut offert par Dieu en Jésus-Christ est déjà ce qui préside à la création du monde. La perspective du salut, elle est présente du début à la fin de, j'allais dire de l'histoire du salut, mais voilà. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Je n'ai pas parlé du Christ, mais tu as raison. Alors, il y a débat peut-être. Oui, alors c'est encore une autre perspective, là, du coup. Oui. J'irai pas tout de suite dans cette direction-là, même si on peut y aller. Hein, mais pour en revenir à ce que disait Jean-Michel, on peut dire à la limite qu'on n'a pas besoin du Christ pour reconnaître que Dieu est sauveur. Sauf quand même que le Christ nous y aide. Voilà. Hein? Et que c'est peut-être une lecture chrétienne, hein, que j'ai faite du premier chapitre de la Genèse, même si je pense quand même, et là encore je me réfère à Emmanuel Lévinas, qui n'est pas chrétien, hein, qui est juif, que je m'appuie sur Emmanuel Lévinas pour aller jusqu'à reconnaître dans ce premier chapitre de la Genèse, le geste salvateur de Dieu, le geste initial de Dieu comme salvateur. Troisième, oui, c'est à considérer qu'il n'y en aurait pas eu entre les autres, mais entre les deux, mais on trouve des récits de la création dans les psaumes, dans, je parlais des Maccabées, dans le livre de la sagesse. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais tu avais le deuxième volet de ta réflexion, Jean-Michel. Le deuxième volet de ta réflexion tout à l'heure, c'était sur le mal comme absence. Hein. Oui, c'est ça, oui.
Le mal n'existe pas.
Oui. Oui, c'est ça, oui.
Il devrait pas exister.
Oui. Yves. Oui, alors j'ose pas m'en tirer de façon leibnizienne parce que on pourrait faire valoir que Dans le cas du rapace, on ne peut pas parler du mal absolu. Mais je ne pense pas qu'on parle du mal de la même façon quand on en parle comme puissance. Toujours compliqué hein, de parler du mal. Hein. De parler du mal comme néantisant, de la même façon qu'on parle du mal à une dent, quoi. Je crois qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Hein. On prend l'exemple d'une douleur ressentie qui permet de nous éviter une douleur plus grande. Bon, enfin, ou alors le fait de contribuer, de s'inscrire dans une chaîne alimentaire. Ben voilà, il y en a un qui. Bon, ce qui est reconnu comme mal à une échelle ne l'est pas nécessairement à une autre. Bon, on n'est pas dans la considération du mal comme néantisant. Je crois que c'est pas tout à fait de la même chose qu'on parle. Et je pense que Augustin se situe, enfin, quand on parle du mal, c'est bien de celui-là dont il s'agit.
C'est plus l'absence qu'un néant.
C'est ça.
C'est un manque.
C'est ça. Sylvette. Le premier meurtre. Oui. C'est vrai. Mais est-ce qu'on ne peut pas le prendre comme un acte qui... Enfin... Oui, oui. Oui. En termes de. On peut parler de destructeur. On peut dire aussi que le mal qui se déchaîne là est un mal qui défait. Hein, qui défait. Non pas qu'il fait quelque chose, mais qu'il défait. C'est une puissance de néantisation et on peut choisir la néantisation qui nous engloutira en même temps. Hein. C'est le mystère de pouvoir choisir le mal. Ça ne fait pas du mal quelque chose pour autant. Hein. Bon. On passe de la création au mal. Peut-être demain. Merci Jean-Michel, merci à vous d'être venu. petit message.